France Info.
Dimanche prochain, ce sera la Journée nationale de la Résistance, une journée créée pour réfléchir aux valeurs portées par les résistants entre 1940 et 1945. Et c'est l'occasion de se pencher sur cette page particulière de l'histoire dans France Info Junior avec notre invité Olivier Vivorca. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Cachan. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Et vous allez répondre aux questions des élèves du Collège François Seligman dans le 10e arrondissement de Paris. Et c'est Sylvie qui commence.
Qui sont les résistants de la Deuxième Guerre mondiale ?
Alors les résistants de la Seconde Guerre mondiale sont d'abord, il faut le dire, une minorité, je parle de la France. La résistance n'a pas été un phénomène qui a été un phénomène massif, au début tout du moins. L'autre élément à souligner, c'est que ces résistants viennent de tous les horizons professionnels et politiques. La résistance n'est pas de gauche, la résistance n'est pas de droite, la résistance n'est pas ouvrière, la résistance n'est pas bourgeoise. C'est véritablement un phénomène qui a mélangé plusieurs classes et qui a mélangé plusieurs appartenances ou sensibilités politiques.
C'est quoi un résistant ?
La définition est très compliquée dans la mesure où on peut considérer qu'un résistant est quelqu'un qui lutte contre l'Allemagne nazie, qu'un résistant est quelqu'un qui lutte contre le régime de Vichy, qu'un résistant est quelqu'un qui lutte les armes à la main, qu'un résistant est quelqu'un qui lutte de manière civile en diffusant une presse clandestine, en protégeant les juifs, les prisonniers évadés, toutes les personnes persécutées par le nazisme et le régime de Vichy. Donc la définition de la résistance et du résistant est très compliquée et beaucoup d'historiens se sont cassés les dents à essayer de définir ce qui est très compliqué à définir.
Yanis.
C'est quoi les grandes actions qu'ont fait les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Alors en France, il y a assez peu de très grandes actions. Dans les hauts faits de la résistance, il faut rappeler d'abord toute la campagne de sabotage des chemins de fer qui est menée autour du débarquement et qui va aboutir à la paralysie du réseau ferré, ce qui va grandement aider les alliés. Il faut également mentionner toute l'aide apportée en termes de renseignement aux alliés. Il faut ajouter également la protection des civils et notamment des jeunes gens qui sont obligés d'aller travailler en Allemagne et que la résistance s'efforce de protéger en les cachant dans des maquis, en leur donnant des faux papiers. Donc on est plutôt dans le registre d'une action répétée que dans des grands hauts faits, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. En Norvège, par exemple, l'un des hauts faits de la résistance a été la destruction de l'usine de l'eau lourde de Vemork, qui a empêché les Allemands d'avoir un composant nécessaire à la fabrication de l'arme atomique.
Ninon.
S'ils se faisaient prendre, qu'est-ce qui se passait pour eux ?
Les résistants qui se faisaient prendre avaient de très graves ennuis. Ils étaient souvent, mais pas toujours, torturés. Et en règle générale, le sort qui les attendait était la déportation dans les camps de concentration. Ils ont pu également parfois être fusillés.
Une question de Ninon.
Est-ce que ça existe toujours, des résistants ?
Alors, les résistants existent toujours à cette différence près que tout dépend du regard que l'on porte sur les résistants. Donc on peut dire que les combattants algériens pendant la guerre d'Algérie, que les combattants indochinois pendant la guerre d'Indochine, etc., etc., sont des résistants. Mais au fil du temps, et notamment dans les années 80, l'image du résistant a changé, et on l'a un peu transformé en pionnier des droits de l'homme, quelqu'un qui lutte contre la barbarie. Dans ce cas-là, on pourra considérer que les personnes qui résistent aujourd'hui au pouvoir de Vladimir Poutine en Russie ou contre des régimes autoritaires en Afrique sont des résistants. Donc tout dépend un petit peu du regard que l'on porte sur la résistance, de la définition que l'on en donne. Et l'on peut du coup appliquer à certains cas ou à d'autres cette image de la résistance française.
D'ailleurs, dimanche, c'est cette journée nationale de la résistance qui a été créée pour porter les valeurs des résistants. Quelles peuvent être ces valeurs ?
Alors, si vous voulez, moi je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on parle des valeurs de la résistance, parce qu'il ne faut pas oublier que si la résistance est un tout, elle est aussi très diverse. Donc, un résistant communiste ne se bat pas nécessairement pour les mêmes valeurs qu'un résistant nationaliste. Il y a eu, et il faut le dire, dans la résistance, une composante qui était, par exemple, antisémite, mais qui jugeait intolérable que les Allemands dictent leurs lois. Donc je crois qu'il faut plutôt raisonner en termes d'exemple, ce que nous donne la résistance. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui, au nom d'idéaux, en règle générale élevés, ont accepté de sacrifier parfois jusqu'à leur vie au nom de ces idéaux. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que la leçon de la résistance m'apparaît éminemment précieuse.
Merci beaucoup, Olivier Vorka, d'avoir été avec nous dans France Info Junior. J'en profite pour citer votre histoire de la résistance qui vient de sortir en version poche aux éditions Tempus. Et merci également à Estelle Faure qui a recueilli les questions des enfants.